Donc, il y a de la place au 3921. Vous pouvez nous contacter et passer comme Paul. Ça y est, enfin.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, Paul. Nous avions eu quelques soucis techniques pour bien vous entendre. Alors, est-ce que ce soir, ça marche mieux?
Après Adrias, ça marche pas mal, ouais.
Oui. Oui, c'est bien mieux qu'hier. Bon, Paul, on recommence?
On recommence.
Eh oui. Donc, vous nous avez appelé avant-hier, et je répète cette phrase parce qu'elle est vraiment très importante, et elle résume le contexte dans lequel vous êtes, à savoir, malgré le temps, je n'arrive pas à oublier.
Oui.
Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé, Paul?
Je voulais aborder un autre thème ce soir, mais bon.
Ah oui, très bien. Non, très bien. Abordez ce que vous voulez.
Vous avez parlé de l'avarice, mais bon, c'est encore un autre thème, mais bon, j'ai pas rédigé de texte encore sur l'avarice.
Alors, en fait, pour tout vous dire, hier, j'avais évoqué le mot abandon, et j'avais pensé à vous, Paul, sur le fait du lâcher prise. Vous savez, le fait que vous nous disiez « je n'arrive pas à oublier le traumatisme, les traumatismes que j'ai vécu », voilà, vous m'avez inspiré, en fait.
D'accord.
Ah oui. Vous voyez, je vous fais cet aveu. Donc, de quoi avez-vous envie de parler ce soir?
En fait, un sujet qui est quand même relativement important, parce que ça concerne la démocratie en France. Plus particulièrement la liberté d'expression.
D'accord.
Moi, je voulais vous poser une question, Sana, pour donner un petit peu votre avis, si je peux me permettre.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'en France, la liberté d'expression, pour tout citoyen français?
Alors, j'ai pas très bien entendu la...
Est-ce que la liberté d'expression en France...
Oui.
Est accessible à n'importe quel citoyen, sain de corps et d'esprit, on va dire.
Normalement, oui. D'ailleurs, c'est le fondement même de la France, liberté, égalité, fraternité. Donc, effectivement, normalement, nous sommes en capacité en France, à la fois de pouvoir nous exprimer librement et de pouvoir également écouter les autres, exprimer leur pensée, leur avis, leur...
Je sais qu'à la libre antenne, il n'y a pas de souci avec la liberté d'expression pour tout un chacun. Mais par contre, moi, je peux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée le 5 novembre 2010.
Oui.
Je me suis retrouvé pour la deuxième fois sur un plateau de télévision que je ne citerai pas. Et j'ai été censuré en direct.
Ah, en direct?
Censuré en direct. Je devais être interviewé et je n'ai pas été interviewé, contrairement aux trois autres personnes qui venaient aussi pour témoigner de leur histoire.
Ah, qu'est-ce qu'on vous a donné comme argument?
On ne m'a pas donné d'argument. Aucun. Bon, je vais essayer de pas dire de nom, parce que ça risque de m'échapper. Bon, moi, j'avais été sur ce même plateau déjà 18 mois auparavant, c'est-à-dire le 30 mai 2009.
Oui.
Bon, là, c'était sur un thème... Le thème de l'émission, c'était « Mon erreur de jeunesse me colle à la peau
».
Et donc, en fait, moi, je suis venu témoigner parce que j'ai été impliqué dans un drame directement.
D'accord.
Qui s'est passé en mai 78. Bon, voilà. Là, bon, il n'y a pas eu de problème. Bon, enfin, on m'a quand même donné quelques consignes. Il fallait pas que je dise certaines choses. Et enfin, bon, j'ai pu passer mon message quand même. Et donc, voilà. Donc, j'ai... Et l'émission a été diffusée 4 jours après, le 4 juin 2009.
Oui.
6 mois plus tard, bon, j'ai contacté souvent cette émission-là, parce que j'ai vécu tellement d'épreuves que j'étais concerné par plein de thèmes.
Oui.
C'est pour ça, moi, j'ai rédigé 80 thèmes.
Ah oui, en effet.
Alors, ce sont des thèmes relatifs à mes expériences personnelles.
Oui.
L'histoire, avec un grand H, notamment, enfin, principalement l'histoire de France au XXe siècle. Beaucoup de textes de sociologie.
Oui.
Et aussi des textes de criminologie.
Ah, d'accord.
Et en fait, donc, parce qu'on ne fait pas les choses par hasard, moi je suis fils de criminel, hein, donc j'ai approfondi la question. Et sur le plan psychologique aussi, parce que j'ai acheté des revues, des magazines de psychologie générale, comportementale, mm-hmm. mais aussi sur la psychocriminologie.
Oui.
Et donc, 18 mois plus tard, donc c'était le 5 novembre 2010, je me retrouve à Paris, sur le même plateau.
Oui.
Sauf qu'ils avaient déménagé entre-temps, mais bon, c'est pareil. Et donc, ils m'ont fait venir à Paris.
Toujours le même, toujours la même personne.
Oui, toujours la même mission.
D'accord, mais avec toujours la même personne, toujours la même personne qui animait, Paul.
Non, non.
Non, ça avait changé. Personne. D'accord.
L'animateur n'était plus le même.
D'accord.
Intervieweur. Et donc ils m'ont fait venir à Paris, ils m'ont payé l'hôtel et ils m'ont payé le train pour rien. Et alors ce qui s'est passé, parce que dans ces missions-là, il y a toujours top témoins. Donc, chaque qui viennent de différentes régions, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui racontent chacun leur histoire, hein, selon le thème de l'émission du jour.
Oui.
Et donc là, le thème, c'était sur les empoisonnements volontaires.
D'accord.
Et donc, vous savez, quand on ne vous invite pas comme ça sur un plateau. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai été interviewé plusieurs fois par une journaliste de l'émission, hein, qui après, ils font une sélection. Bon, déjà, ils Absolument. Regardent si vous êtes cohérent, si c'est logique ce que vous dites. Et bien sûr, hein, ils ne peuvent pas inviter... n'importe qui. Et donc voilà, je me suis retrouvé sur ce plateau de télévision qui est en forme d'amphithéâtre. Hein. Et en fait, moi, j'ai pas. Donc il y avait 4 témoins. Donc il y avait 3 femmes qu'on avait tenté d'empoisonner. Dont une en fait qui était restée handicapée. Et moi, j'étais en face. Ils m'ont pas mis à côté. Généralement, les 4 témoins sont les uns à côté de l'autre sur des grands fauteuils. Et moi. Ce qui m'a surpris, c'est quand je suis rentré dans la salle, sur le plateau, j'ai été placé en face, de l'autre côté, des 3 femmes témoins. Mm-hmm. J'étais assis à côté d'un avocat qui participe parfois à l'émission.
D'accord.
Et il se trouve qu'au bout d'une demi-heure, je n'avais toujours pas été interrogé, toujours pas de questions.
Oui.
Alors que les 3 autres... femmes témoins étaient interviewées, interrogées, auditionnées à tour de rôle.
Et on ne vous a rien dit avant l'émission ? On ne vous a pas dit
Non.
Non, d'accord.
Non, parce qu'ils m'ont fait rentrer dans la salle. Et bon, j'ai compris après pourquoi.
Oui.
Parce qu'au bout d'une heure, parce que l'émission dure à peu près une heure, un peu plus, et j'avais toujours pas été interviewé. Et donc l'animateur est venu me voir... à la fin de l'émission, c'est terminé, il m'a posé une question qui n'avait rien à voir avec le thème. Et hop, c'est éclipsé.
Et c'était une émission en direct, hein.
Non, c'est pas en direct.
Non, c'était enregistré. D'accord, donc là, c'était l'enregistrement, en fait.
Voilà.
D'accord.
Et c'est un peu le même principe que... Enfin, bon, il y a une autre émission qui remplace maintenant, qui est un peu équivalente, hein. Mm-hmm. Et je pense que ils ont la comment dire, je pense que c'est leur service juridique qui a demandé de ne pas m'interviewer. Et je pense qu'ils ont eu peur du scandale.
D'accord.
Et parce qu'en fait, en 1971, mon frère aîné et moi avons commis une tentative de parricide. Il a échoué totalement. Et donc, j'ai expliqué au téléphone à la journaliste, hein, avant d'être invité, j'ai expliqué pourquoi on était arrivé là. Et deux ou trois jours plus tard, on me rappelle, il dit « Ok, on vous invite. » Donc, j'y vais.
Oui, c'est témoignage très fort. Hein.
C'était un témoin gênant.
Ah oui, oui. Ouais. Et c'était votre père ou votre mère ?
Le paternel.
Ouais, oui, c'était le paternel. D'accord.
Notre bourreau.
Oui, oui, oui.
Et donc, en fait, je pense que c'est leur service juridique qui a décidé de ne pas m'interviewer parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et parce que si on était arrivé là, c'est à cause des pouvoirs publics.
Oui. Bon, et donc là, je comprends un petit peu plus la, votre question. Voilà, la question du départ qui est qu'est-ce que vous pensez de la liberté d'expression? Absolument.
Oui. En fait, c'est, pour moi, la France n'a jamais été un pays 100% démocratique. On va dire un pays pseudo-démocratique. Mmh. Parce qu'en fait, les témoins gênants, eux, ils n'ont pas le droit à la parole.
Alors, pour répondre concrètement à la question, la libre antenne, c'est la libre antenne. Tout le monde peut appeler. Tout le monde peut raconter, libérer la parole. Et en fait, le principe, vraiment, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Alors oui, ça va heurter certainement la sensibilité de certaines personnes. Ça peut déranger, ça peut au contraire captiver. Ça va faire écho, ça va résonner. Maintenant, voilà, c'est la libre antenne. Et en tout cas, vous avez la certitude que moi, je ne vous juge pas. C'est votre vie. Et voilà, c'est vous. C'est vous, Paul. Donc...
En fait, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dupes, parce qu'en fait, lorsque je dis que la liberté d'expression, ce n'est pas pour tout le monde, c'est un secret de polichinelle. D'autre part, j'avais expédié mon deuxième petit livre en Belgique, à Bruxelles, à une maison, une association d'éditeurs. Mmh. Jamais eu de retour non plus.
Vous pensez que c'est le thème qui dérange ?
Oui. C'est le bouquin que j'ai envoyé, c'est ma biographie, c'est mon autobiographie.
Est-ce que c'est le thème ou c'est la façon dont vous l'écrivez ? C'était ça ma question.
Déjà, la couverture est dérangeante.
Ah.
Le titre qui dérange, puis il y a un symbole qui dérange. Mais ça n'empêche. À Bruxelles, il n'y a aucun éditeur qui m'a contacté pour me dire votre histoire nous intéresse, mais on va changer la couverture.
Oui, en fait, effectivement.
Un petit, ça aurait pu se faire. Surtout que c'est un petit livre, hein, parce que c'est un petit livre qui fait 65 pages. Et encore, il y a la deuxième partie, il est en deux parties. Il y a mon histoire. Et en deuxième partie, il y a Histoire de France. Bah, c'est juste une synthèse de quelques pages, en fait.
Ouais.
Et j'ai jamais eu de retour.
Alors, quel est l'objet de votre appel exactement, Paul ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers ce que vous nous partagez ?
Ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'en France, la liberté d'expression, ce n'est pas pour tout le monde.
D'accord. OK.
Et vous savez, il y a des gens, il y a plein de gens qui ont écrit des bouquins qui sont censurés.
Ah oui, certainement, bien sûr. Oui, certainement, oui, effectivement, vous avez raison.
Ben oui. Bon, on a ça quand même, on avance un petit peu, disons qu'on évolue quand même un petit peu vers la vérité.
J'étais même en train de me dire que si vous éditez votre livre vous-même, je ne sais même pas si vous arrivez. Vous auriez à trouver des distributeurs, hormis sur Internet, encore une fois. Donc, tout seul, finalement. Hein.
Oui, en fait, mes bouquins, mes trois bouquins, je les ai fait fabriquer à compte d'auteur.
Ah oui.
Donc, en très petite quantité. Hein. Mon premier, c'était 110 exemplaires.
Oui.
Le deuxième, c'était le petit dont je vous parle, c'est 140.
Mmh.
Et mon troisième, c'est simplement, il est en format A4, c'est simplement 20 exemplaires que j'ai fait.
Oui.
J'ai eu un gratuit, 21. Avec des photos couleurs, photos noir et blanc, hein, pour illustrer un petit peu surtout dans mon premier livre, hein, il y a des photos qui illustrent chaque chapitre.
D'accord.
Pratiquement. Et alors, justement, quand j'ai eu ce premier livre-là, j'en avais fait 30 exemplaires au départ. Et je suis allé au Salon du Livre, ça devait être en 2009. En fait, celui-là, j'ai eu les 30 premiers exemplaires le jour de l'investiture de Barack Obama, c'était en novembre 2010.
Oui, oui.
C'était une double bonne nouvelle pour moi.
Ben oui, oui. Et donc au Salon du Livre.
Alors j'avais, je vous explique, j'avais fait 100 photocopies pour présenter mon bouquin.
Oui.
Ils les ai tous distribués, parce qu'en France, il faut savoir qu'il y a plus de 600 éditeurs, du plus petit au plus gros.
Oui.
C'est 600 éditeurs. Et j'ai aucun retour.
Après, il faut persévérer, Paul. Hein.
Non, mais c'est bon, parce que ça fait trop longtemps maintenant.
Ah oui, bon.
Non, je ne vais pas insister. Et bon, par contre, mes textes, parce que j'en ai fait 80, j'en ai fait 2000, au moins 2000 photocopies là, depuis quelques années que je distribue à droite à gauche. Il n'y a personne qui me répond. Personne.
Alors,
j'ai écrit à des hauts responsables.
Ouais.
Bah, je ne sais pas si je l'avais déjà dit. J'ai écrit à des hauts responsables au niveau judiciaire, au niveau gouvernement, au niveau député, enfin bon, à un tas de gens, des élus et tout ça. Et en fait, sur. Donc, ça représente des dizaines de personnes. Il n'y a que deux ministres qui m'ont répondu. Là, il y a eu Michel Alliot-Marie, qui était à l'époque ministre de la Justice. Et il y a eu Christian Jacob, qui à l'époque était ministre de la Fonction publique.
Alors après, est-ce que vous avez donné du sens à ce livre? Est-ce qu'il y a un message à travers ce que vous avez vécu?
Ah ben oui, c'est un message par rapport aux violences familiales.
Oui. Et ça n'a pas fait écho, manifestement. Alors, Paul, vous avez reçu un SMS qui vous est adressé. On vous pose la question, pourquoi doute-t-il de la liberté d'expression? Il a été censuré en 2010, il y a 12 ans. Alors, ça n'est pas signé, je ne sais pas de qui est-ce, mais c'était il y a 12 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez retenté de mettre en avant à la fois votre parole et en même temps, les livres que vous avez écrits?
Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que ça a évolué un petit peu à ce niveau-là. Mais moi, je reste persuadé, parce que je connais des cas, qu'il y a des gens qui n'ont pas le droit à la parole.
Bon. Bon. En tout cas, vous l'avez eu ici avec nous.
Et en fait, bon, parce qu'on avait parlé aussi d'un autre thème, des thèmes, je pourrais vous en proposer 80.
Oui, j'ai entendu.
Mais parce qu'il y avait aussi, on avait parlé du deuil impossible.
C'est ça, le deuil impossible.
Éventuellement, vous savez ce que c'est que le deuil impossible, je pense. Et, on peut citer des cas très concrets, d'ailleurs, par rapport à ça. Par exemple, bon, l'affaire Jubilard, par exemple.
Oui.
L'affaire Jubilard. Bon. Madame Jubilard, je ne me rappelle plus son prénom, qui était infirmière, hein, et mère de enfants, je crois.
Oui.
On n'a jamais retrouvé son corps.
Non, c'était Delphine, le prénom.
Non, on ne l'a jamais retrouvé. Donc, les proches de Madame Jubilard ne pourront jamais faire le deuil, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas tourner la page tant qu'ils n'auront pas les réponses aux questions qu'ils se posent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ils auront tout le temps ça dans la tête, et ça va les empêcher d'avancer. Ils ne pourront pas se concentrer, ils ont du mal à se concentrer. Ben, il y a un avant et un après. Hein. Voilà. Bon, par contre, maintenant, il y a des cas. Bon, c'est aussi le cas de beaucoup de gens, de personnes qui ont été assassinées, qu'on n'a jamais retrouvées. Donc, ben, les proches, ils se posent des questions éternellement. On ne peut pas tourner la page. Il faut obtenir les réponses. Il y a beaucoup de gens qui vont dans les procès d'assises pour obtenir des réponses.
Oui.
Voilà, et malheureusement, ils ne les obtiennent pas toujours parce que l'accusé ne veut rien révéler.
Et donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut lâcher prise, se dire que bon, ben voilà, nous n'aurons jamais les réponses à ces questions. Mais au-delà de ça, vous avez raison, de toute façon, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas tout oublier, ça n'est pas possible. Nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des machines.
Non.
Donc,
non,
effectivement. Maintenant, après, c'est, tout dépend de la douleur, Paul. Et là, on parle de la douleur. Vous savez, cette douleur que vous ressentez de temps en temps, ou même souvent, elle s'atténue néanmoins avec le temps. On est d'accord? Elle s'atténue, n'est-ce pas?
Non, 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 au contraire. Au contraire. Au contraire, parce que...
Vous avez été maltraité. Vous avez été maltraité, Paul. Est-ce que vous continuez... Paul, est-ce que vous continuez à être maltraité aujourd'hui?
D'une certaine façon, oui, parce que j'en paye toujours les conséquences. Moi, j'ai pris la vraie perpétuité sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan financier. Voilà.
Et là, moi, je parle juste de votre bourreau. Juste de votre bourreau. Est-ce qu'il continue, ce bourreau, à vous persécuter et à vous maltraiter, Paul?
Ah non, parce qu'il est mort, hein, depuis longtemps. Il est mort en 2010.
Hein. Donc, Paul, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est
ça
fini?
Ça veut dire que
c'est ça fini veut dire, ça veut...
Pour moi, ça veut dire que ça restera. On parlait des blessures. Bon, il y a des cicatrices qui restent, mais il y en a
Absolument.
qui se referment, mais il y en a d'autres qui ne se referment pas. Et parce que notre père éternel, il n'a jamais été condamné, il n'a jamais fait un séjour en prison, ni à l'hôpital psychiatrique, contrairement à moi.
J'entends, Paul. Est-ce que vous m'avez entendu? Est-ce que vous avez conscience que c'est fini, Paul?
C'est pas fini, puisque moi j'ai deux frères. Alors il y a aussi le côté familial, parce que j'ai deux frères. Il n'y a plus aucune relation entre nous depuis des années et des années.
Oui.
Donc j'en souffre de ça aussi. Donc notre famille a été complètement détruite, hein.
Vous nous
Ma
avez
vie à
expliqué,
moi
hein, ils sont
détruite.
partis. Pour eux, pour se sauver, c'était l'expatriation pour
Tout à fait.
réussir. Mais néanmoins, ils sont partis avec leurs cicatrices émotionnelles, leurs cicatrices invisibles, leurs traumatismes. Mais ce que je suis
Oui,
juste
mais
en train de vous dire, juste je dirais la première marche, Paul, c'est de réussir à vous dire, c'est fini depuis 2010, la personne n'est plus là. Juste ça, Paul, c'est fini.
j'entends bien. Vous tenez ce discours-là régulièrement, mais à d'autres personnes. Mais comment dire? Moi, ça fait 32 ans que je vis seul, je mange tout seul, tous les soirs, ça fait 32 ans. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi j'arrive à supporter la solitude comme ça. Parce que moi, je suis quelqu'un de... je suis large d'esprit, un petit peu trop peut-être d'ailleurs, par rapport à certaines choses. Mais en fait, si j'arrive à supporter la solitude à ce point-là, c'est pour une bonne raison, c'est que j'ai souffert énormément de la promiscuité. Alors la promiscuité, j'ai connu toutes les formes de promiscuité. Familiale, militaire, service militaire, professionnelle, carcérale. Voilà. Donc, je préfère être encore. Donc c'est pour ça que j'arrive à supporter la solitude. Parce qu'il n'y a rien de pire que la promiscuité pendant des années, des années, des années.
Alors,
Vous comprenez?
je comprends parfaitement et je suis plutôt adepte de la solitude à dire que la solitude fait du bien. L'isolement est très mauvais. Maintenant, moi, j'ai une autre question à vous poser, Paul. Quel homme voulez-vous être?
Vaste sujet.
Ah, ben voilà. Alors, je ne vous demande pas une réponse tout de suite. Je viens juste de semer une petite graine. On pourra en reparler plus tard si vous le souhaitez.
À
Mais
propos de
vraiment.
graines, je n'en ai jamais semé, moi.
Mais. Oh, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Vous verrez, ça pousse très vite parfois. Mais vraiment, Paul, quel homme voulez-vous être? Parce que vous nous dites je
J'en
supporte,
supporte
je
rien.
subis, etc. Mais encore une fois, quel homme voulez-vous être? Donc si vous travaillez là-dessus, ça peut peut-être vous aider un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour alléger cette souffrance, ce fait de parfois cette haine, hein, parce que moi je me souviens très bien, on en avait parlé, cette ire, cette colère que vous ressentez et qui monte comme ça, d'accord, de temps en temps, vous l'avez exprimée, je m'en souviens très bien, parce que là c'est la troisième fois que je vous ai en ligne, et merci de votre confiance, Paul. Vraiment, quel homme voulez-vous être et de quoi avez-vous besoin?
Juste pour finir, si vous permettez,
Bien
je sais qu'il y
sûr.
a du monde derrière, hein. Les gens ne vont pas être contents parce que oh, celui-là, il est passé plusieurs fois, puis moi, j'espère, je ne passe jamais.
C'est la libre antenne. Chacun a le droit à la parole et vous pouvez vous exprimer, mon cher Paul.
Juste pour finir, vous voulez, en matière de reconstruction psychique, hein. On en a parlé, c'est le cas de Lydia Huardo. Lydia Huardo, c'était probablement la femme la plus torturée de France pendant 28 ans. Son beau-père lui a fait 6 enfants, donc elle a été violée des milliers de fois. Elle a subi toutes sortes de tortures. Hein. Et ça s'est arrêté quand son bourreau est mort. Il a fait une crise cardiaque et c'est comme ça qu'on a découvert le poteau rose. Et ben, elle a pu se reconstruire parce que suite à la médiatisation de son affaire, elle a rencontré plein de gens et puis elle a rencontré un type très bien. Et voilà, maintenant ils sont ensemble, je sais pas s'ils sont mariés, enfin ils sont ensemble, ils ont eu 3 enfants. Donc elle a 9 enfants. Donc maintenant, puis bon, elle avait ses enfants. Donc elle aimait beaucoup ses enfants. Et voilà, donc elle avait les conditions pour se reconstruire. Parce qu'on ne peut pas se reconstruire comme ça, il y a des conditions à réunir.
Eh ben voilà, c'est...
Moi, j'en ai aucune. Moi, j'ai aucune solution. Avant, j'en avais. Avant, j'en avais des solutions. J'étais parti d'associations, tout ça. Bon, il y a aussi le problème de l'amnésie traumatique. Hein. Concernant mes frères, ils sont peut-être encore dans l'amnésie traumatique. Mais je pensais qu'on aurait pu se retrouver quand le vieux est mort.
Oui. Bon,
c'est
pas le cas.
Il n'y a rien passé.
C'est pas le cas. Mais non. Toujours est-il que, avant de nous quitter, moi je voudrais juste, mais juste Paul, je vous demande juste ça, une feuille blanche, un stylo. Quel homme voulez-vous être? De quoi avez-vous besoin? Et quelles sont les conditions, puisque vous parliez de conditions, pour y arriver? D'accord? Et on en reparle, promis, vous me rappelez et on en reparle.
Je les connais, les conditions, ne vous inquiétez pas.
Bah, non,
je vous écoute souvent, donc voilà.
Ouais, bon, bah, tant mieux. Merci Paul de votre fidélité. Merci infiniment de votre confiance.
Et, en tous les cas, ça marche bien ce soir la radio.
Hein. Ça marche bien ce soir la radio? Ça va.
Vraiment.
Hein. Oh, ouais, ça va. Et puis vous voyez, on vous a récupéré, donc ça c'est une bonne chose.
J'ai enregistré la conversation. J'ai envoyé un de mes livres à Olivier Delacroix.
Qui revient.
Donc éventuellement, vous pouvez le récupérer auprès de lui.
Ok, je vais regarder, promis.
Alors j'ai pas eu de retour non plus, vous voyez. Parce que j'ai demandé à ce que me confirme que le livre lui avait bien été remis. Et j'ai pas eu de réponse non plus.
Bon, bah, je vais regarder. Je vais regarder ça, je vous promets. À bientôt.
Je peux pas vous dire le livre à la radio.
Ne raccrochez pas tout de suite. Ne raccrochez pas tout de suite. Et puis Bastien ou Adrien me donneront le nom du livre. Hein. Paul, prenez bien soin de vous et à très bientôt.
Voilà, j'espère bien. Et puis,
j'espère.
Bon courage aussi pour la...
Merci. Voilà. Merci infiniment, Paul. Au revoir.
C'est moi.
Au revoir. Au revoir.